Voilà, que l'Esprit Saint ouvre notre esprit au sens des Écritures, qu'elle puisse devenir parole vivante et illuminer nos cœurs. Alors, au début du chapitre 3, Jean s'était exclamé, nous sommes enfants de Dieu. Et c'est une réalité immense. On n'aura jamais fini de réaliser que nous sommes adoptés par le Seigneur comme intégrés, attirés, plongés dans l'intimité de la Trinité, gratuitement. C'est le fruit du sacrifice du Christ. Et juste après nous avoir annoncé que nous étions enfants de Dieu, Jean nous parle de ne pas pécher et de pratiquer la justice. Être enfant de Dieu, ce n'est pas un acquis, un privilège. C'est une réalité, oui, depuis notre baptême, mais c'est aussi une tâche. Il s'agit de vivre de cette adoption divine en créature nouvelle. Donc je reprends le chapitre 3, je vais même prendre au verset 10. À ceux-ci sont reconnaissables les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Car tel est le message que vous avez entendu dès le début, nous devons nous aimer les uns les autres. Loin d'imiter Caïn, qui étant mauvais, égorgea son frère. Et pourquoi l'égorgea-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises, tandis que celle de son frère était juste. Ne vous étonnez pas, frère, si le monde vous hait. Nous savons, nous, que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un homicide. Or, vous savez qu'aucun homicide n'a la vie éternelle demeurant en lui. À ceci, nous avons connu l'amour. Celui-là a donné sa vie pour nous. Et nous devons nous aussi donner notre vie pour nos frères. Je reprendrai ensuite la lecture. Nous allons reprendre déjà le verset 10. Vous avez remarqué aussi peut-être déjà le nombre de fois où apparaissait le mot de frère. Et en effet, si nous nous reconnaissons enfants d'un même père, ben il s'ensuit que nous sommes des frères. Et cela modifie grandement notre manière de nous regarder et de vivre entre nous. C'est une grâce, de l'Esprit Saint, c'est le don de piété qui nous donne ce sens. Puisque je suis enfant, l'autre aussi qui est enfant de Dieu, eh bien nous sommes tous frères. Et saint Augustin a dit, il est ton frère, vous avez été rachetés ensemble, tous deux au même prix. Tous deux rachetés par le sang du Christ. Le verset 10 nous disait, voilà comment se manifestent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu et pas davantage celui qui n'aime pas son frère. Autrement dit, c'est à l'amour des frères qu'on reconnaît les enfants de Dieu. C'est pourquoi, et c'est ce qu'on va voir beaucoup ce soir, Jean va expliciter ce qu'est cet amour fraternel. Et il nous parle, vous voyez, là, explicitement du diable qui existe et qui cherche à nous influencer et à nous mettre dans la confusion, à nous sortir de la justice de Dieu, cet ordre de la sagesse de Dieu qui met les choses à la vraie place. Dieu premier servi. Le démon, il vient bousculer tout ça, il nous suggère des choses qui sont des désordres. Le primat des plaisirs, le primat du pouvoir, de l'argent. Verset 11, tel est le message que vous avez entendu depuis le commencement, aimons-nous les uns les autres. Sans cesse à revenir à ce premier appel, cet appel à l'amour. Tout le monde le sait, les chrétiens, c'est à leur amour, à l'amour fraternel, qu'on devrait connaître, comme Jésus l'a expliqué. Ne soyons pas comme Caïn. Il appartenait au mauvais et il égorgea son frère. Et pourquoi l'a-t-il égorgé? Parce que ses œuvres étaient mauvaises. Au contraire, celle de son frère était juste. Ah, voilà deux frères, Caïn et Abel. Le drame du non-amour entre eux qui va au maximum jusqu'à au meurtre de d'Abel par Caïn. Alors je vous invite à relire un peu ce passage de Caïn et Abel parce que vous allez voir, ça nous intéresse beaucoup, ça nous dit beaucoup de choses très concrètes. C'est pas si facile. Je relis dans Genèse 4, verset, à partir du verset. Abel devint pasteur de petit bétail et Caïn cultivait le sol. Le temps passa et il advint que Caïn présenta des produits du sol en offrande au Seigneur et qu'Abel, de son côté, offrit les premiers-nés de son troupeau et même de leur graisse. Or, le Seigneur agréa à Abel et son offrande, mais il n'agréa pas Caïn et son offrande. On peut être choqué là. Pourquoi est-ce que Dieu a agréé le sacrifice d'Abel et pas celui de Caïn? On se dit, mais c'est pas juste. Enfin, tous les deux, ils ont fait leur offrande. Est-ce que Dieu a des préférences? Et de fait, Caïn est très choqué. Je continue. Caïn en fut très irrité et il eut le visage abattu. Le Seigneur dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu es bien disposé, ne relèveras-tu pas la tête? Et si tu n'es pas bien disposé, le péché n'est-il pas à ta porte? Une bête tapie qui te convoite? Pourras-tu la dominer? Cependant, Caïn dit à son frère Abel, allons dehors. Et comme ils étaient en pleine campagne, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Alors pourquoi j'ai repris ce texte? Parce que je pense qu'il nous dit beaucoup de choses. Déjà, cette première chose, on peut être choqué en se disant, mais c'est quand même bizarre cette histoire, pourquoi est-ce que Dieu agrée Abel et pas Caïn? Eh bien, en fait, on a vraiment les signes dans ce texte que le cœur d'Abel était droit et pas celui de Caïn. Alors je m'explique, parce que ça nous enseigne beaucoup. Dieu est bon. Il suscite dans le cœur des hommes le désir de lui faire des offrandes qui manifestent notre amour, notre repentir, notre désir de le glorifier, de réparer. Mais en réalité, Dieu n'a rien à faire du sang des boucs et des taureaux, il le dit lui-même, hein, dans Isaïe. Et même, il s'écrit au début des Isaïe, n'apportez plus d'oblation, c'est pour moi une fumée insupportable. Parce que ce qui intéresse le Seigneur, c'est la vérité de l'offrande. C'est-à-dire, avant tout, la pureté de l'intention. Ce qui intéresse le Seigneur, c'est s'il y a geste extérieur, que ce geste extérieur soit effectivement l'expression du mouvement du cœur. Que ça soit cohérent, que ça soit vrai. Or, l'acte posé par Caïn est extérieurement irréprochable. Ce n'est pas que Dieu préfère les agneaux aux légumes, pas du tout. Mais nous avons des signes que ce geste extérieur de Caïn, qui paraissait juste, en fait, n'était pas juste. Son cœur n'était pas avec le geste. Et puis, Dieu attend de nous des offrandes vraiment pour lui seul. C'est-à-dire que nous regardions ni à droite ni à gauche. Vous savez, Jésus, dans le début pendant le sermon sur la montagne, dit quand tu pries, quand tu fais l'aumône, voilà, ne regarde ni à droite ni à gauche, va dans ta chambre, et puis ton Père verra ce que tu fais dans le secret. Tous nos gestes religieux devraient être faits comme devant lui seul, même s'il y a des gens autour. Et malheureusement, nous sommes souvent en attente de l'approbation des autres, et on est tenté de comparaison qui nous porte systématiquement à la jalousie. Et comment on voit que Caïn, de fait, était mal disposé? Parce qu'il est irrité et il baisse la tête. S'il est irrité, c'est qu'en fait, il n'avait pas une intention droite et pure. Si vraiment son intention avait été droite et pure, en voyant que son offrande n'était pas accueillie, il aurait été désolé et non pas irrité. Et il aurait regardé le Seigneur et il aurait dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Dis-moi, comment puis-je faire? Non, il est irrité. En fait, il est jaloux. De plus, il est néné et il voit que Dieu agrée celle d'Abel. Donc, en fait, il est jaloux. Et la jalousie est d'abord une passion que les animaux ont, une réaction spontanée de notre affectivité. Et le fait qu'il soit jaloux au départ, ce n'est pas là le péché. Et Dieu lui parle, Dieu prend l'initiative, il lui dit, mais pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Et il l'avertit, si tu n'es pas bien disposé, le péché n'est-il pas à ta porte? Et il l'invite à dominer son péché, à se reprendre. Or, et nous pouvons, nous aussi, avoir ces mouvements. Et Caïn choisit de céder à la jalousie. Il ne regarde pas le Seigneur. Il laisse la jalousie l'envahir. Ça le pousse à la haine et au meurtre. Alors pourquoi je développe tout ça? Parce que je crois que la jalousie est une faute très fréquente, pas si facile à dépister, qu'on a beaucoup de mal à avouer et qui nous fait beaucoup de mal parce qu'elle entraîne des péchés contre la charité qui sont graves. Donc, nous avons comment dirais-je, des signes pour la dépister. Les signes, c'est la tristesse et l'irritation. On est triste quand l'autre a réussi, quand il est mis en avant, quand il nous paraît plus aimé. On devient de mauvaise humeur, agacé. Aïe, aïe, aïe. Ça veut dire qu'on est tenté de jalousie et il faut réagir. Il ne faut pas se laisser avoir. Et puis, comme Caïn, on baisse la tête. Ça veut dire quoi? On garde ce sentiment dans les ténèbres. On n'en parle même pas au Seigneur. On ne pense même pas à le confesser. Or, c'est un péché grave. Lorsqu'on consent à la passion de jalousie, c'est grave. Alors, pour l'éviter, en amont, il faut nous garder des comparaisons. Paul nous dit, dans la première épître aux Corinthiens, l'amour ne jalouse pas. Et vous voyez, Judas, qu'est-ce qui a corrompu le cœur de Judas qui fait qu'il a été jusqu'à trahir Jésus? N'est-ce pas sans doute la jalousie? Sans doute. Peut-être vis-à-vis de certains disciples, de Jean peut-être. Par contre, Abel, lui, il avait réalisé son offrande sans s'occuper de son frère, ne regardant que son Dieu. Et pour nous, il est un grand modèle. Mais c'est vrai que ça le rend vulnérable et il se fait attaquer. Voilà. Saint Augustin, d'une manière très simple, Dieu n'a pas regardé aux mains, mais il a vu dans le cœur. Je poursuis, verset 13. Ne soyez pas étonnés, frères, si le monde a de la haine contre vous. Vous voyez, il y a un lien. Parce que Caïn a eu de la haine contre son frère. C'est incroyable. Mais la vérité et l'amour peuvent susciter la haine. Jésus, le premier, a suscité la haine parce qu'il disait la vérité. Vous pouvez voir dans le chapitre 7 de Jean, au verset 7, Jésus dit, le monde ne peut pas vous haïr, mais il a de la haine contre moi parce que je témoigne que ses œuvres sont mauvaises. Et dans les Hébreux, chapitre 12, verset 3, l'auteur nous dit, considérez celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle haine, ou selon les traductions, hostilité, opposition. C'est important pour nous de savoir que nous pouvons nous retrouver avec des hostilités extrêmement pénibles à porter. Et je crois que tous ceux qui cherchent à défendre la vérité sont attaqués un jour ou l'autre. Jean-Paul II disait, c'est dur de porter la haine, d'être haï. Je crois que tous ceux qui aujourd'hui militent pour la cause, par exemple, de la vie, sont attaqués et certains les détestent. Alors écoutons Paul qui nous dit, sois vainqueur du mal par le bien. Mais ce n'est pas facile d'être chrétien. C'est incroyable, mais le bien et la vérité peuvent susciter la haine. Jésus a porté la haine. Et nous avons notre part aussi. Et il nous faut demander la grâce de ne pas céder à la colère, à la rancœur. Je poursuis, verset 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Oh, quelle bonne nouvelle! Même si nous endurons la haine, nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons vivre, au fait. C'est pas la vie biologique, c'est pas de s'agiter. C'est au sens profond la vie du cœur, l'amour. Et on peut toujours aimer. Vous connaissez peut-être cette jeune fille, Chiara Luce, qui est morte en 90, elle avait 19 ans, je crois, et qui a été béatifiée. Lorsqu'elle était clouée dans son lit, elle disait « Je n'ai plus rien, mais il me reste le cœur, et avec lui je peux encore aimer. » C'est fou. Et c'est ça la vraie vie, c'est d'aimer. Et on sait bien, quand nous n'aimons pas, nous sommes dans le froid et dans la mort. Voilà. C'est la charité fraternelle qui nous permet de vivre à fond et de vivre en enfant de Dieu. Je poursuis, verset 15. Quiconque a de la haine contre son frère est un meurtrier. Et vous savez que pas un meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. On peut s'interroger parce qu'on dit quand même, on ne déteste pas les gens, on ne les haït pas. Oui. Il faut quand même que nous soyons vigilants. Parce que nous pouvons être habités de haine. Ça se traduit par exemple parce qu'on ne veut pas pardonner. On bloque. On se durcit. Parfois, c'est simplement très passionnel, on déteste quelqu'un, voilà. Mais quelque part, on s'habitue. Et si on consent à ces haines-là, c'est grave. Qu'il y ait des gens qui nous sont antipathiques, qu'est-ce que vous voulez? Les chats et les chiens sont antipathiques les uns avec les autres, très généralement. Bon, alors il y a des gens, spontanément, ils nous agacent, et on est, voilà, voilà, il y a quelque chose qui se dresse en nous. Ça, c'est passionnel. Mais consentir, s'habituer à avoir quelqu'un dans le collimateur, s'habituer à refuser de pardonner, ça c'est grave. Et là, Jean nous dit, quelque part, c'est tuer l'autre. C'était un petit meurtrier. On éteint quelque chose dans l'autre. On le sait bien, hein. Il y a des gens qui, lorsqu'on est à côté d'eux, la vie en nous grandit. Et d'autres qui nous éteignent. Et nous, c'est pareil. Il y a des gens qui, auprès desquels on voit bien, on ne les aime pas beaucoup. Et en fait, on éteint quelque chose en nous. Il faut être sensible à ça. On a tous le droit de vivre, et de vivre, j'allais dire, à fond. Voilà. Et j'en dis, voilà, et dans ces cas-là, si on n'aime pas, si on haït, on est meurtrier, et alors la vie éternelle ne demeure plus en nous. Si elle ne demeure pas en nous, ça veut dire qu'avant, elle y était. C'est important parce que c'est aussi Jean qui nous fait comprendre que cette vie éternelle, on l'a depuis le baptême. Elle demande qu'à s'épanouir. Elle est déjà là. C'est déjà commencé. Et on lui permet de s'épanouir dans la mesure où on essaye d'aimer. Et on est très vigilant par rapport à ses jalousies, à ses haines, à ses duretés. Je continue. Verset 16. Je crois qu'on ne l'avait pas lu encore. Ben, ça ne fait rien, je vais y aller verset par verset. Là, maintenant, j'ai pris la traduction liturgique. Je me balade un peu dans les traductions, c'est vrai, j'aime bien en avoir plusieurs. Là, je prends la traduction liturgique. Voilà comment nous avons reconnu l'amour. Lui, Jésus, a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Ouh, 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 ça met la barre très haut quand même. Hein. Lui, Jésus, a donné sa vie pour nous à la croix. Ça, c'est la mesure, le modèle, mon Dieu. C'est extrêmement exigeant. Oui, mais à la croix, Jésus est aussi la source. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, comment dirais-je, de limiter avec nos efforts. Il s'agit d'apprendre à accueillir la grâce qui est donnée par le Seigneur depuis la croix et la résurrection. Aujourd'hui, on avait tout à l'heure à la messe que nul ne se soustrait à la grâce. que nul ne se dérobe. Donc il s'agit surtout de ne pas passer à côté de la grâce. Essayons de ne pas, oui, passer à côté de toutes les sources de grâce. Les sacrements en sont une source. Et de ne pas perdre la grâce, justement, par ces blocages dont je viens de parler. De fait, depuis notre baptême, depuis la croix et la résurrection de Jésus, la prophétie d'Ézéchiel est réalisée. Vous savez, cette prophétie au chapitre 36, dans laquelle le prophète disait « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés de toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. » Mais c'est fait depuis la croix. « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. » Oui, le Seigneur n'attend que ça, nous donner son cœur, mettre en nous son esprit. Mendions, demandons. Je poursuis la prophétie. « J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit, etc. » Voilà. Le Seigneur donne, nous donne son esprit, mais nous devons sans cesse le demander. Alors donner notre vie, hein, pas simplement nos biens. On est invité à un amour qui est grand. Alors Saint Augustin explique, oui, mais enfin, on commence par le début. Et déjà, de donner un petit peu d'argent, de rendre un petit service, c'est le début. Oui, c'est bien, et il faut continuer. Et petit à petit, apprendre à ne pas donner seulement des choses, mais à se donner soi-même, à s'investir dans un don de plus en plus vrai et total, qui puisse progressivement aller jusqu'à l'offrande de toute notre vie. Il y a des marches, il y a des degrés, on n'est pas appelé à tous donner tout à toute vitesse, mais en tout cas, oui, la barre, la mesure, c'est le Seigneur Jésus qui s'est totalement offert à la croix. Mais c'est pas, je vous le dis bien, c'est pas quelque chose à imiter au sens par nos efforts, mais c'est le Seigneur qui veut nous donner par sa grâce la possibilité de nous donner. Et ça, ça nous épanouit. Le bonheur sera quand nous pourrons nous donner pleinement. Je poursuis verset 17. Celui qui a de quoi vivre en ce monde, s'il voit son frère dans le besoin sans faire preuve de compassion, comment l'amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui? Ah, fabuleux. L'amour de Dieu va demeurer en nous dans la mesure où on va aimer les autres. L'amour de Dieu, j'allais dire, ça bouge, il bouillonne, il ne peut pas rester en nous immobile, comme si nous étions des tours fermées. L'amour de Dieu réclame de circuler et que nous aimions les autres. Et dans la mesure où nous aimons, nous réalisons qu'effectivement Dieu est en nous puisque nous pouvons aimer. Et cet amour ne diminue pas quand on le donne. Au contraire, il augmente. Alors j'avoue que j'aime mieux la traduction plus littérale que celle que nous donne la traduction liturgique, six fois son frère dans le besoin sans faire preuve de compassion. Plus littéralement, c'est s'il lui ferme ses entrailles. Voilà, je prends un terme un petit peu, peut-être un peu vulgaire. Voilà, il faut qu'on apprenne à aimer avec nos tripes et à nous laisser toucher et émouvoir. Voilà. Nos cœurs doivent s'attendrir, deviennent capables même de pleurer. Pape François parle souvent de ça. Est-ce qu'on sait encore pleurer? Voilà. C'est pas de l'affectivité, voilà. C'est peut-être une tendresse sobre comme celle de Mère Teresa. Mais est-ce que nos cœurs sont vivants? Voilà. Ensuite, je poursuis. Alors, où sommes-nous dans l'heure? Je regarde un peu l'heure. Ça va. On a encore le temps. Je vais lire là, du verset 18 à 24. Je reprends donc dans la traduction liturgique. Voilà, voilà. Petits enfants, n'aimons pas en paroles, ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité. Et devant Dieu, nous apaiserons notre cœur. Car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimé, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous lui demandions, quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons les commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Voilà, petits enfants, n'aimons pas en parole ni par des discours, mais par des actes et en vérité. L'amour, on ne peut pas s'identifier à des sentiments, ni aux belles paroles. Il ne se contente pas non plus de bonnes intentions. Il faut que l'amour vienne du plus profond et qu'en plus cet amour s'incarne. Et oui, c'est normal. Et on aime, il faut que ça se voit, j'allais dire. Il faut, voilà, il y a quelque chose qui doit se vivre par des actes et en vérité. On ne peut, bien sûr qu'il faut que le cœur soit touché, mais l'amour de charité s'enracine pas dans la sensibilité. L'amour de charité, l'amour divin, s'enracine au fond de notre volonté, dans notre capacité d'aimer. Quand c'est la charité, on veut aimer et on se donne. Les paroles font partie de l'expression de l'amour, c'est vrai, mais Jean nous avertit, ne jamais nous contenter de paroles. La vérité de la vie chrétienne, c'est la charité en acte. Jésus attend cela de nous. Et cet amour en acte, alors c'est quoi? C'est pas si facile. Il faut qu'il y ait des actes. Donc, est-ce que c'est simplement de poser des actes gentils, de service, qui disent que c'est la charité divine? Aïe, aïe, aïe. Ça ne suffit pas non plus. Alors saint Augustin souligne que cette charité sincère ne peut pas se discerner par les seuls actes extérieurs et qu'il nous faut constamment nous interroger sur nos intentions. C'est drôlement exigeant l'amour de Dieu, drôlement exigeant. Saint Augustin dit, qui parle d'actes très gentils, qui peuvent paraître des actes de charité. Et il dit, toutefois, en posant nombre d'actes de ce genre, certains poursuivent des fins qui n'ont rien à voir avec l'amour fraternel. Il nous faut revenir au témoignage de la conscience. Et oui, saint Augustin nous dit, finalement, scrutons nos cœurs. Ça nous arrive de faire des actes qu'on pense être des actes de charité, mais en fait, par ostentation. On veut être vu. Et donc, en fait, on fait des actes pas mal du tout. Mais c'est beaucoup pour être vu, pour être apprécié. Et Dieu attend un amour devant lui, d'aimer en Dieu, d'aimer pour Dieu. Et c'est important pour nous, même quand nous faisons beaucoup d'actes qui paraissent de charité. Je ne sais pas, ça vous arrive peut-être, moi ça m'arrive constamment. On peut être très dynamique et faire des tas de choses dans la maison et on se dit, ben voilà, en tout cas, moi je rends vachement service, ça. Je fais plein de trucs dans la maison. En fait, on est un petit peu de mauvaise humeur en même temps. Voilà. Mais en même temps, justement, il y a un petit peu de mauvaise humeur. Et puis on attend la reconnaissance. Et puis s'il n'y a pas la reconnaissance, on est de mauvaise humeur. Oh là là, comme c'est difficile, cette vraie charité dont Jean parle. Une charité qui est celle de Jésus, du cœur de Jésus. Une charité d'aimer l'autre pour lui-même, gratuitement, sans attendre de retour. L'aimer sans comptabiliser. Ouh là là, vous voyez comme c'est exigeant. C'est pour ça qu'on a, il nous a dit tout de suite, quelque part, le modèle, la mesure, c'est la charité du Christ à la croix, vous voyez. Alors ensuite, aimer en acte et en vérité, dans les actes, j'aime beaucoup une expression du pape François, qu'il reprend plusieurs fois dans son encyclique Amoris Laetitia, La joie de l'amour, il parle de l'artisanat de l'amour. Donc, aimer en acte et en vérité, c'est aussi découvrir dans la journée, avec nos proches, dans notre milieu professionnel, dans toute notre vie, beaucoup de petits actes que nous pouvons poser avec un cœur de charité. C'est de l'artisanat. Ça marche, c'est pas en série, c'est pas forcément des grandes choses. Guy Gilbert, il parle des petits pas. La petite Thérèse aussi, c'est tout à fait dans ce sens-là. L'artisanat de la charité fraternelle. Vous voyez, c'est pas quelque chose forcément qui a du clinquant, qui en jette plein les yeux, mais cet artisanat de l'amour, de la charité, on voit bien que c'est de Dieu, que nous sommes vivants par là, que nous sommes à la fois en paix avec le Seigneur et que nous avons cette expérience d'aimer. Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité et devant Dieu, nous apaiserons notre cœur. Oui, on sent bien quand on aime de cette manière, notre cœur est en paix. Verset 20, car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Ça aussi, c'est très bien réconfortant parce que quand on interroge sa conscience, on voit bien qu'il y a des moments où, en fait, nos cœurs sont un petit peu, comment dirais-je, un peu troubles. On a des intentions qui ne sont pas si pures que ça et notre conscience nous accuse. Alors, Jean nous invite à venir vers le Seigneur, à lui montrer ce cœur qui n'est pas tout à fait pur. De ne pas fuir le regard de Dieu, parce que Dieu est plus grand que notre cœur. Il connaît toutes choses, il connaît notre faiblesse, et il purifie notre cœur. Quand on lui montre que notre cœur, il est encore imparfait, mais on est en train de cheminer. Et la miséricorde de Dieu nous regonfle encore. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Dans cette mesure où on essaye d'aimer, on essaye d'être dans la charité, on scrute son cœur pour voir s'il est effectivement en train d'essayer d'aimer gratuitement avec le cœur de Dieu, eh bien, on reste dans la paix. C'est très imparfait, ça reste imparfait, mais on est sur la bonne route. On est en paix, on est en assurance devant Dieu et on peut lui demander plein de choses. Et il accueille, il reçoit, il nous exauce profondément. Ce qui ne veut pas toujours dire qu'il réalise exactement ce que nous avons fait. Hein. Que c'est comme un médecin parfois refuse au malade un médicament parce que c'est en fait pas le bon. Je poursuis. Or, voici son commandement. Mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Ça, je crois que c'est un formidable résumé des attentes de Jésus sur nous. Croire et aimer. Vous voyez, ça c'est la vie théologale. Croire et aimer. De plus en plus, faire confiance à Dieu. Jésus, j'ai confiance à Dieu. Jésus, je sais que tu es là, je ne suis pas seul. Et aimer, travailler à essayer d'aimer et reconnaître nos manques d'amour, nous confesser pour que chaque fois notre cœur, trop petit, trop étriqué, trop souillé, soit réanimé par la miséricorde de Dieu. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son esprit. Le signe que nous demeurons en Dieu, c'est que nous avons part à son esprit. Alors évidemment, comment discerner si c'est son esprit que nous avons en nous? C'est la suite qui nous aide à comprendre. Et là, on entre dans le chapitre 4, que je vais lire très très vite les premiers versets. Bien-aimés, ne vous fiez pas à n'importe quelle inspiration, mais examinez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, car beaucoup de faux prophètes se sont répandus dans le monde. Voilà comment vous reconnaîtrez l'esprit de Dieu. Tout esprit qui proclame que Jésus-Christ est venu dans la chair, celui-là est de Dieu. Alors, saint Augustin explique, c'est pas de dire que Jésus-Christ est venu dans la chair, que Jésus-Christ s'est fait homme, mais c'est de vivre de l'amour du Christ. Alors, je vais même prendre la phrase qui dit, l'Esprit de Dieu est celui, alors l'Esprit de Dieu est donc celui qui dit que, voilà, dire que Jésus est venu dans la chair, ça ne suffit pas de le dire avec les mots, qui le dit de bouche, ça ne suffit pas, il faut le dire en acte, c'est-à-dire non en parlant, mais en aimant.
Chers auditeurs, c'était notre émission Les Épîtres de Saint Jean. Vous étiez avec Sœur Marie-Emmanuelle. Retrouvez cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.